Alors, je voudrais juste dire à David, j'aime beaucoup parce que F, le F de France et le EU de États-Unis, en français, ça fait feu. Et il y a quelque chose de très fort dans cette connexion. Et puis, par rapport à la France, on a une grande image, enfin, une grande vision d'espérance, et elle est là. Alors là, il y a à gauche la petite France classique, quoi, que tout le monde connaît, celle des touristes, hein, l'Alsace, la Tour Eiffel, tout ça. Et puis, voilà ce qui arrive. Donc oui, il se passe quelque chose et il se passe passer de plus en plus de choses. Et alors ce qui m'impressionne énormément dans cette introduction, parce que pour moi ça va complètement avec le message, hein. David ne le sait pas, mais moi, je suis impressionnée, c'est que ça nous parle. Enfin, cette perspective qu'apporte David, c'est fou, il y a quelque chose, vous voyez bien qu'il y a un élargissement. Il y a des connexions inattendues, énormes, préparées de très longue date, hein, dans le secret des cœurs, et puis paf, ça arrive, et on dit « ouh là 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 ». Et il y a quelque chose d'énorme qui arrive, un élargissement. Et le verset avec lequel je voulais commencer, c'était, Yohann, si tu peux le mettre, Ésaïe 54:2. Alors celui-là, là, en long, en large, Ésaïe 54:2. Alors qui c'est qui a... Ça c'est très bien. Ésaïe 54:2, vous ne voyez peut-être pas le rapport, mais il y a un gros rapport. Est-ce que vous voyez le rapport ? Élargis l'espace de ta tente. Alors là, c'est une petite tente, une place. C'est OK, c'est pas mal, hein, c'est pour ceux qui ont fait du camping dans leur vie. C'est pas mal, mais le Seigneur, il dit, bon, maintenant, cette dimension-là, fini. Hein. On élargit. Alors, tu peux passer à la seconde tente, quand même. Une autre dimension de tente, la tente numéro 2. Voilà, ça c'est quand même beaucoup, beaucoup plus clair. Vous voyez des énormes cordages, vous voyez, dans le désert. Ça, c'est la vraie tente de Bédouin, voilà. Et c'est une vraie tente prise dans le désert du Syrie, hein. Donc une vraie. Et c'est énorme, je pense qu'à l'intérieur. Et puis, j'ai regardé un petit peu les tentes qui existent dans le monde. Ça m'a élargi ma dimension, je peux vous dire. Hein. Les tentes arabes, mais c'est phénoménal, c'est des palaces, c'est énorme. Il y a des salles de réunion dedans, enfin, on ne peut pas imaginer. Donc, élargis l'espace de ta tente. Maintenant, si tu peux projeter Ésaïe 54:2, voilà, on va regarder les... Voilà, élargis, maître mot, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, dans la derby, ce n'est pas demeure, c'est les tabernacles. Et dès qu'on déploie les couvertures de tes tabernacles, ne retiens pas, autre version, n'épargne pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Donc tout ça nous parle d'extension, tout azimut, de allonge tes cordages, ça fait partie de connexion, d'étendre vers les États-Unis, d'étendre vers l'Afrique, d'étendre vers... en ce qui me concerne, vers la Chine, et puis etc. Vous voyez, ça s'étend, et on est élargi. Mais c'est pas ça sur lequel je voulais insister. Tout ça, c'est vrai, et c'est exactement ce qu'a apporté David. Hein. On est vraiment dans cette phase-là. Mais le zoom, le rayon laser du Seigneur de ce matin, c'est la dernière partie. Affermis tes pieux. Alors, parce que si on étend, vous voyez ce que je veux dire ? Si on étend, il y a de la tension, c'est le cas de dire, étendre, tension, voilà. Et je parle au niveau individuel comme au niveau corporatif. Hein. Il y a de la tension et en plus, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, il y a des vents de tempête qui arrivent. Alors les tempêtes, les vents de tempête de l'Éternel, ceux qui exécutent sa parole, peut-être les vents d'adversité aussi, mais il y a des vents de confrontation, il y a des vents de tempête. Ça a été prophétisé, Pierre-Daniel Martin nous l'a dit, on l'annonce, on le sait, je vous le rappelle, je nous le rappelle, des vents de tempête arrivent. Donc qui dit vent de tempête dit qu'il faut que les piquets soient solides, voyez. Alors j'ai amené, comme j'aime bien parler au visuel, j'en suis une alors, il me faut du visuel. Jusqu'à présent, on était au niveau sardine normale. Tout le monde a fait du camping dans sa vie. Alors, j'ai amené, hein, sardine.
La sardine, celle que tout le monde connaît.
Dans sa vie, tout le monde a utilisé ça, d'accord ? Petite tente familiale, 5 places, c'est bon, hein, les campeurs, vous savez, hein ? Ça va, et puis on prend un petit maillet, pof, 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 et puis on enfonce, et puis grosso modo, ça va. Hein ? Bon, ça, fini, exit, terminé, c'est plus du tout adapté, plus du tout adapté. On va dire, bon, on va passer à une petite taille supérieure, ça va ? trouvez pas? C'est déjà, waouh, une autre dimension quand même. Hein, hein, on est content. C'est plus épais, il faut déjà un marteau plus, hein, plus costaud. On est content. Non, ça ne va pas du tout. C'est pas adapté non plus. Ah bon, ok. Il faut vraiment changer de dimension, vous voyez? Dimension. On change totalement. Pour ce qui est devant, il faut changer de dimension. Et on parlait des Sud-Africains, ils nous avaient dit, vous êtes dans la taille coquetier, passez à la taille au-delà, vous voyez? Bon, alors on apprend la leçon. Bon, taille suivante. Et je peux vous dire, c'est du lourd. Hein. Ah, c'est du lourd. Alors là, pour l'enfoncer, celui-là, pas mal. Hein. Ça vient des profondeurs du château de l'école Daniel, je peux vous dire. Ça, c'est du costaud. Il y a encore plus. Et le vrai, celui qui actuellement sert à l'école Daniel, ce n'est pas celui-là, c'est encore au-delà. Et réellement, hein, si vous avez des établissements Daniel, il y a une tonnelle, hein, vous savez, les châtelains, il y a une tonnelle devant. Je suis allée voir, ouais, il y a cette taille-là, et c'est ce qui est enfoncé. Et en plus, c'est enfoncé, on voit que ça qui dépasse, hein, c'est impressionnant. C'est waouh. C'est ce qui a tenu la tonnelle tout l'été, malgré les tempêtes, les gros coups de bourrasque qu'on a eu, hein, quand même, c'était, ça a tenu le choc. C'est ça qu'il nous faut. Alors, affermi tes pieux. Alors, pour les guerriers de l'Église, les guerrières, eux, juste une petite chose, en hébreu, le pieu, là, celui-là, c'est le même que celui que Yaël a utilisé pour trucider Sisera. Celui-là. Bam. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une arme de guerre. Mais bon, là, affermis tes pieux. Alors, les pieux, maintenant que visuellement, vous avez bien compris qu'il y a un énorme renouvellement d'intelligence entre ça et ça, on change de dimension parce que la tente, elle change de dimension, l'attente collective de notre église, de ce qui est dans l'appel, enfin, on sait très bien, hein, on va aller bientôt toucher la ville avec l'espace guérison qui va sortir, dès qu'on a l'autorisation, on sait très bien que ça va démarrer plein pot, et il y a quelque chose d'énorme devant nous, sans compter l'ISP, sans compter l'établissement Daniel, sans compter l'élargissement aussi établissement Daniel, on prévoit des millions d'euros de travaux, je suis la comptable, hein, ça me concerne, des millions d'euros, élargissement, tout nous dit élargissement, mais ce que le Seigneur dit aussi, préparez-vous. Et cette semaine, en préparant ce message, je sentais vraiment une... Ouah, c'est le temps. Se préparer. Alors, les pieux, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi, les pieux? Alors, d'abord, c'est le mot utilisé pour le tabernacle, le même mot, pieux, quand on construit le tabernacle, hein, dans Exode, etc. Alors, les piquets, les pieux, les piquets, c'est quoi? Alors, l'enracinement dans la parole, certainement, dans les profondeurs, là, Luc parlait du cèdre, hein, c'est un peu ça, les racines qui vont très 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 profond, dans la présence de Dieu, dans la sécurité de son amour inconditionnel, mais aussi dans la communion fraternelle, être solidement reliés les uns aux autres, dans l'intimité avec Jésus, hein, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et on a, je rappelle, Alain Rindel est en train de faire toute une série de messages sur la communion fraternelle pour bâtir des relations très, très solides entre nous. Et c'est des messages qui sont à écouter pour ceux qui n'étaient pas là. Hein, c'est vraiment des choses importantes. Et puis, supporter la pression. Donc, il faut se préparer. En plus, on est dans un temps très, très particulier. On fête au moins deux anniversaires. Bon, je viens d'en prendre qu'un autre à Bâle, hein, mais il y en a au moins deux. Alors, côté Jérusalem, il y a un énorme anniversaire en 2017, hein, vous le savez. C'est 2017, c'est les 50 ans de 67, hein, réunification de Jérusalem. Donc, c'est un énorme anniversaire. Et puis, bien sûr, évidemment, 2017, c'est, au niveau européen, voilà, 500 ans de la réforme. Alors là, je vais poser une question, mais les Klein ne sont, vous n'avez pas le droit de répondre parce que vous savez trop la réponse, et les Bussières non plus. La réforme, c'était marqué par les cinq solus, ou sola ou soli. Hein? On y va, dites-moi, c'est quoi les cinq? Bon, ok, j'avais pas pensé, non, tu sais, ouais. Alors, il y a un petit indice, c'est que Julie a bâti tout son spectacle de fin d'année de l'école Daniel sur les cinq solus. parce qu'elle n'a pas le droit de répondre. Donc, sola gratia, sola fide. Seulement par la grâce, sauvé par la grâce, et seulement par la foi. OK ? Mais il manque trois. Sola scriptura, après. Soli Deo gloria, et le dernier. Ah, vous êtes. Oh, bon, quand même, le dernier. Les Bussières, vous dites rien. Alors, on récapitule. Sola gratia, sola fide. Sola scriptura, soli Deo gloria, le dernier. Ah, bravo! Solus Christus, voilà. Alors là, je pense qu'un minimum, c'est que... Moi aussi, j'ai dû répéter dans cette semaine, je vous rassure. Hein. Mais à mon avis, un minimum, c'est qu'on les sache, ces cinq-là. Hein. Alors, on répète. Alors, le premier, celui qui tient à tous les autres, c'est sola scriptura. Sola scriptura, après, on va dire bah, solus Christus, ouais. Oui, bah oui, aussi, ouais, ouais. Sola fide, gratia, et soli Deo gloria. À Dieu seul soit la gloire, ça nous parle de l'unité. Donc, on est dans un temps, et vous savez qu'on nous a parlé, hein, des Mexicains nous ont parlé des 500 ans, cycles de 500 ans. On n'est pas seulement dans une commémoration comme ça, pour faire bien, mais on est vraiment dans un temps particulier où Dieu nous interpelle, nous dit, allez, on revient à la parole, on accepte l'autorité de la parole dans nos vies. Et aussi, il y a un réveil du désir de connaître Dieu. Alors, Johan, si tu peux projeter, Osée 6, 3. Il y a cette interpellation forte. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Verset 3. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alors, je ne sais pas, vous, quand vous allez au lit le soir, vous ne posez pas de questions d'état d'âme sur le fait qu'il y aura le jour le lendemain. Ben non, vous n'êtes pas angoissé. Est-ce qu'il y aura le jour? Est-ce qu'il va arriver le jour? Vous n'êtes pas angoissé à ce sujet. Au moins un sujet d'angoisse en moins. Et ça interpelle. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Est-ce qu'en nous, bon, intellectuellement, oui, Jésus vient, oui, d'accord. Enfin, intellectuellement, bien sûr. Mais est-ce que c'est là? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. C'est une certitude, c'est évident, 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 évident. Et ça veut dire qu'il faut agir en conséquence, forcément, être cohérent avec cette venue. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Alors là, le connaître, c'est évidemment, normalement, au bout d'un moment, on a compris, hein, c'est certainement pas une connaissance intellectuelle. Hein, certainement pas. C'est une connaissance intime, pratique, etc. Alors là, j'ai pensé... Bon, je suis prof, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi prof. Je suis comptable et prof. Alors, il y a des petites déformations comme ça. Alors, je me suis dit, j'avais à cœur un petit exercice pratique. La connaissance, c'est quelque chose de dynamique. Ça avance, vous voyez ? Ça avance. C'est surtout la connaissance au niveau hébraïque, une connaissance intime, personnelle, tout ça. Et Dieu, Jésus, c'est une personnalité énorme, riche de multitudes de facettes. Vous êtes d'accord? Alors, j'avais une question, et peut-être que ce que je voudrais, c'est que vous y répondiez, alors soit individuellement, si ça vous gêne de partager, soit avec votre voisin. Quelle est la facette, le nom de Jésus, l'identité, l'aspect de son identité que vous êtes actuellement en train de découvrir ou actuellement en train d'approfondir dans cette dynamique de marche? Bon, si vous n'avez aucune dynamique, ce n'est pas un problème, on va traiter ça après. Mais s'il y a, et surtout, ne répondez pas intellectuellement. Ah oui, je sais qu'intellectuellement, Jésus, c'est ta 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 ta. On essaie tous un gros rayon intellectuel là. Mais là, pratiquement, dans le concret, dans l'expérience, la vie de tous les jours, quelle facette de Jésus est en train de se révéler à vous, est en train de se mettre en lumière pour vous? Soit une facette totalement nouvelle, soit quelque chose qui est en train d'être considérablement approfondi. Alors, je vous laisse 2-3 minutes. Soit vous, tout seul, vous réfléchissez, soit vous partagez avec votre voisin, voisine, et puis on fera un petit compte-rendu après. La question est claire, hein, vous avez bien compris. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, des choses que vous avez envie de dire, enfin, des facettes de Jésus qui sont vraiment, pour vous, complètement une révélation, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez envie de... qui est sur votre cœur? Non? Huguette? Non? L'humilité? Ah, l'humanité. Jésus, l'homme. Une autre facette qui est en train de se révéler à vous? Oui, Véronique. Oui, la bonté de Dieu. Jésus l'ami, oui. Oui. Honneur et confort, guérison. Oui. Oui, Elisabeth. Dieu avec moi. Oui, oui. Oui, puissance de la parole. Je répète pour le micro, puissance de la parole. Ce qu'on dit, on le reçoit. Le prince de paix qui habite en nous. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une infinité de facettes chez Jésus et qu'il ne veut pas qu'on reste en surface de ce qu'il est? Il veut nous entraîner toujours plus loin, plus profond, parce qu'on a besoin de le connaître. Dans Daniel, il est dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages d'entre eux instruiront la multitude. Ceux qui connaissent leur Dieu. C'est une connaissance intime, et on est dans un temps où le Seigneur veut absolument nous entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond dans cette connaissance. Mais je crois qu'on fera peut-être un appel après, si, pour tous ceux qui sont peut-être un petit peu en plan ou qui ont... ou un petit peu été bloqué dans cette démarche. C'est une démarche dynamique, c'est une démarche où on avance, on avance, on avance. Mais le Seigneur s'occupe aussi de ceux qui sont restés un petit peu stagnants ou de ceux qui sont perplexes. Voilà, ce sera, on va en parler. Donc, comme a dit Jocelyne, alors je rebondis sur ce qu'a dit Jocelyne, Jésus, il y a tellement, tellement de choses à dire hein, sur Jésus, mais bon, par rapport au pieu, par rapport au piquet, et puis le sola scriptura, c'est Jésus, la parole. Que je voudrais mettre en lumière ce matin, Jésus est la parole. Et, bon, vous savez que dans la parole, dans la Bible, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de la parole. La parole est un feu, un marteau, du lait, enfin plein, plein, plein d'images. Hein. Et il y a une image que je voudrais, sur laquelle je voudrais attirer l'attention, peut-être parce qu'elle est un peu moins connue, et puis très, très réelle, c'est dans le psaume 23, verset 4, hein, Johan, psaume 23, verset 4, tout le monde connaît par cœur, on passe... Bon, on connaît par cœur, on l'apprend par cœur. Hein. Je ne crains aucun mal, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et dans notre tête, de pas berger, on n'est pas des bergers professionnels, même Werner, il n'est pas un berger, on n'est pas des bergers. Ta houlette et ton bâton, bah oui, la houlette comme ça, c'est pour, on sait bon, vaguement pour tirer des brebis comme ça. Le bâton, bah oui, c'est pour taper sur les ennemis, les loups, les ours, ce qu'a fait David, là on tape dessus quoi. Et puis le bâton, c'est aussi un signe d'autorité, de conduite. Bon, ça c'est vu d'extérieur par des profanes que nous sommes, nous ne sommes pas des bergers professionnels. Il y a un berger professionnel, je crois que c'est le frère de Béné, hein. Donc elle sait un petit peu plus ce que c'est. Alors heureusement, il y a un super bouquin, un mini-livre que je conseille, un berger médite, c'est le psaume 23, qui est commenté par un vrai berger. Et là, il y a une profondeur de la parole qui est extraordinaire. Donc le bâton, ça peut nous parler de la parole. Hein. Et ce bâton, eh ben, figurez-vous, ce n'est pas que pour taper sur le lion et l'ours, ou pour signe d'autorité, de conduite du troupeau. Il y a des usages très réels, dans le naturel, hein, du bâton, la parole de Dieu aussi, on va dire, hein, c'est une image, très très réel, et il y en a deux que je voudrais vous expliquer, parce que c'est waouh, c'est le Seigneur fait, en plus il le pratique. Alors les bergers actuels, hein, africains par exemple, dans l'Est africain, c'est là qu'il était professionnel, berger dans l'Est africain, quand une brebis va vers des petites plantes vénéneuses, ou s'écarte un peu du troupeau, ou prend des petits risques, vous voyez, ce que fait le berger, il envoie le bâton, avec beaucoup de précision, et paf, ah, la brebis, il se passe quoi? Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé encore fraîchement, parce que si vous voulez ce message, j'ai l'impression que je l'ai expérimenté, je l'ai pratiqué, et ce n'était pas trop, toujours drôle. Et c'est quand vous prenez un verset en pleine figure. Vous êtes dans, voilà, vous êtes dans votre petite vie, là, comme ça, et puis, pam, vous lisez quelque chose, ou vous entendez quelque chose, ou un frère vous dit quelque chose, et vous prenez la parole en plein cœur, là, comme ça, bon, ça vous laisse pantois, et oui, Seigneur, il se passe quoi ? Et vous comprenez qu'il faut vraiment faire quelque chose. En tout cas, arrêter ce que vous êtes en train de faire et vous remettre en question. Ça, c'est un des usages du bâton. Pas très connu, hein, mais je peux vous assurer, le Seigneur, il fait comme ça. Et c'est par amour, évidemment. Derrière, c'est la bonté de Dieu et l'amour de Dieu, évidemment. Pour nous empêcher de goûter aux plantes vénéneuses ou pour nous empêcher de faire des choses risquées, etc. Mais c'est, et, évidemment, il faut tenir compte de cette parole, évidemment. Et puis, à ce sujet-là, y a un autre usage du bâton, pas très connu, enfin très peu connu, que je ne connaissais pas, c'est le livre qui nous le dit. Le bâton, vous savez que les brebis, elles ont de la toison. Mais sous la toison, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc le berger, il prend son bâton. Allez, ma brebis, on va regarder ce qu'il y a là-dessous. Et avec son bâton, il écarte la laine, tout ça. C'est comment, là, c'est quoi, là, qu'est-ce qui se passe derrière la peau, là? Est-ce que la peau est en bon état? Est-ce qu'il n'y a pas des maladies? Est-ce que tout va bien? Est-ce que, vous voyez, il teste la toison à l'aide de son bâton. Voilà. Donc ça, c'est un usage du bâton et c'est la parole. C'est exactement, si tu peux, Johan, projeter le verset, psaume 13. Psaume 13, il y a la parole qui est exactement ça, parce que nous, on ne sait pas trop ce qu'on trimballe, hein. Et qui nous dit, non, c'est les versets 23-24. Ah bon ? Ah ben ça alors. Qui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Hein ? Je ne sais pas s'il est là. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de la vérité. Cette idée que nous, par nous-mêmes, on ne sait pas. Et que c'est le bâton de la parole qui nous scrute et qui dit, sonde-moi, ô Dieu. Ah, pardon. Ouais, c'est une erreur. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de la vérité. Voilà, donc deux usages du bâton qui sont peut-être pas très connus. Ah, merci, 139, voilà. Et pas très connus, mais très réels, le bâton du berger. Et puis, une autre image, on n'est plus dans le bâton cette fois-ci, on va passer, mais toujours, on va rester dans les moutons. Et puis, on a vu d'autres images. L'image principale de la parole, c'est notre ami Denis qui en a parlé il n'y a pas longtemps, hein, début août, Denis. Il nous a parlé de le chef de l'armée d'Éternel qui arrive, et puis, c'est Jésus, hein, dans Josué 5, il a l'épée nue à la main, l'épée tirée. Donc, l'image forte de la parole, c'est l'épée. Et alors, cette épée, nous, on connaît bien Éphésiens 6, arme offensive, l'épée Réma, l'épée de la parole qui nous permet, la seule arme offensive pour attaquer tout ce qui nous attaque, là, on répond avec le réma de la parole de Dieu, une arme offensive. Mais il n'y a pas que cet usage-là. Et d'ailleurs, quand l'Éternel arrive, tu es pour nous, contre nous, normalement, ça, en français, ça s'appelle une question partielle. On ne doit pas répondre oui ou non. C'est tu es pour nous, tu es contre nous. Tu réponds pour ou pas pour. Mais tu ne peux pas répondre oui ou non. Dieu, il ne tient pas du tout compte de cette question partielle, il en fait une question totale, non. Oui, non, non quoi ? Non. C'est-à-dire, ta question est incongrue, ça ne va pas. L'épée, elle fait son boulot d'épée, elle n'est pas pour, contre, elle fait son travail d'épée. Et d'ailleurs, dans le même chapitre, avant, il y a quelque chose de hyper douloureux pour les hommes de Josué, ils sont tous passés par la circoncision. Alors, ce n'était pas des bébés de 8 jours, c'était des adultes, et j'imagine pas ce qu'ils ont souffert. Hein. Et ça, c'est dans le même passage. L'épée, elle fait ça aussi. elle trucide la chair. Et vous avez l'équivalent dans Hébreux 4, cette épée, Hébreux 4, 11-13, tu peux projeter. Hébreux 4, 11-13, voilà. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est une épée d'amour, attention, hein, c'est une épée pour nous libérer de nous-mêmes pour remettre de l'ordre dans notre vie. Je pense au message de Nadine, hein, ce qui était, cet été aussi, elle a donné un message sur l'ordre corps, âme, esprit, qu'est-ce qui commande, qu'est-ce qui doit diriger l'ensemble, c'est-à-dire l'esprit. Et parfois, l'âme est très envahissante. Et voilà. Donc, c'est un ordre de Dieu. Et l'épée de la parole de Dieu, elle nous fait du ménage et elle tranche ce qui est redondant, tout ce qui est excroissance de l'âme. Et vous avez, si on revient à l'image des brebis, vous avez ce qui se passe avec la tonte. Alors, le couteau de la tonte, Johan, l'image de le couteau. Ce couteau, voilà. Vous avez un gros couteau, voilà, des ciseaux exactement, vous voyez. C'est le berger, il a ses ciseaux en main et il va tondre la brebis. C'est aussi une image forte de l'action de la parole. La toison, alors il faut savoir que la laine, vous verrez jamais des sacrificateurs revêtus de laine. Les sacrificateurs sont revêtus de lin. La laine, dans la parole, ça représente un peu la vie propre, le moi. Et la toison des brebis, prend de l'ampleur et d'ampleur. Et non seulement elle prend de l'ampleur, mais elle se charge de toutes sortes d'impuretés, de tiques, de bêtes, de tas de choses dans la marche. Hein. Ça salit. Et puis elle prend de l'ampleur. Et c'est très dangereux pour la brebis. Ça, c'est le berger qui nous le raconte aussi. Parce que ça peut faire tomber la brebis. Tellement elle est lourde. Et puis alourdie par toutes les saletés de la marche. Hein. Donc, des branchages, des feuilles, des trucs. Donc, ça fait tomber la brebis. Et la brebis, eh ben, quand elle est tombée, eh ben, elle ne peut pas se relever toute seule. Et en plus, il y a la pression des gaz dans la panse qui fait que la brebis, elle peut mourir en quelques heures si elle est abandonnée comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment hyper important que la brebis, elle soit tondue. Donc, image suivante. Alors, les brebis, dans le naturel, elles n'aiment pas du tout la tonte. Hein. Pas du tout. Parce que c'est une position comme ça, couchée, bloquée entre les jambes du berger, vous voyez. Là, c'est chez nous, hein. C'est dans les Pyrénées, je crois. C'est vraiment chez nous. Le couteau, il brandit le couteau et puis il va tondre sa brebis. La brebis, elle est coincée, et voilà, elle est coincée, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus gambader, elle ne peut plus brouter d'herbe verte, c'est coincé. Et puis nous, parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive quand même en tant que prof, j'ai remarqué qu'en été, il y a une période de l'été où le Seigneur, il dit, allez, ma brebis, hop, tu as bien nourri les petits agneaux, tu as fait ce qu'il fallait dans l'année, maintenant, on va s'occuper de toi. Julie, elle connaît. on va s'occuper de toi, on te bloque là, tu es... Juste avec moi, toi et moi, c'est entre nous. L'ennemi n'a rien à voir, l'adversaire, l'accusateur. Non, c'est juste entre toi et moi. On va regarder tout ça et on va tondre tout ce qui est débordant. Et voilà, la brebis, une position très, très humiliante quand même. Très humiliante. Image suivante. Ah oui, voilà. Ça, c'est pas, alors désolé, David, c'est pas la peau de cerf, ça. C'est pas de ma peau de mouton non plus. Non, je rassure, c'est pas la peau de mouton. C'est une toison de mouton. C'est-à-dire la brebis, elle est bien vivante. Elle est restée vivante, même si on a l'impression qu'il n'y a plus de brebis. Non, elle est bien vivante, mais il n'y a plus de toison. Ça veut dire que c'est une brebis dépouillée. L'équivalent pour les cèpes de vigne, c'est quand il n'y a plus que deux serments qui restent et tout le reste a été émondé, vous voyez. Une brebis émondée, on va dire, en langage. Il n'y a plus grand-chose qui reste. Et une fois que c'est fait, bon, ce n'est pas drôle du tout, et quand ça arrive, la parole arrive, elle enlève toutes les excroissances charnelles, les comportements charnels, tout ça. Elle vous rabote, ça fait mal. Et ça fait mal, bien sûr, ça fait mal. Et on se dit, mais est-ce que je vais sortir entier de ce traitement-là? Et oui, bien sûr, après, vous avez l'image suivante. Voilà, le berger, elles n'ont plus la même apparence, c'est sûr. C'est un peu dénudé, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elles sont légères? Qu'est-ce qu'elles sont légères, ces brebis? On est léger. On marche par l'esprit, allégé de notre âme envahissante qui voulait tout commander. On est mieux. Et le berger, il sait exactement à quel moment il nous fait passer par ce traitement-là. Mais normalement, on passe tous par ce traitement-là. Normalement. Si on est fidèle, si on dit Seigneur, vas-y, fais ce qu'il faut, sonde-moi, tout ça, on y passe. Et c'est Hébreux 12 qui nous dit, comme des fils, le Seigneur nous corrige. Il nous tond, il nous corrige, mais ça fait partie de l'éducation. Donc ça, c'est des épées, c'est des usages de l'épée qui ne sont pas du tout offensifs contre l'adversaire, mais c'est des usages très, très, très cruciaux aussi pour nous. Il faut accepter cette circoncision. C'est hyper important de passer par là. Merci Seigneur pour l'action de ton épée. Et... Ah oui, alors cette épée, il faut accepter cette correction, lui obéir, parce que c'est derrière il y a l'amour de Dieu. Là, je vais vous raconter une petite histoire, c'est un film, Fabrice doit savoir, parce que c'est un film qui a été projeté à un culte du Collège Daniel cette année ou l'année dernière. Un film, un tout petit film, c'était des Brésiliens, missionnaires brésiliens qui ont projeté ça. Alors, je raconte l'histoire parce que, bon, l'image est assez terrible quand même, assez... On voit une petite dame au volant de sa petite voiture. Elle conduit sur une route, voilà, elle conduit, enfin, tout va bien. Et puis, le soir tombe, elle conduit toujours, un petit coup d'œil à la jauge, il n'y a plus beaucoup d'essence. Et puis, c'est désertique. Hein. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis, des grandes étendues désertiques. Vous savez, désertique. Hein. Pas de la moindre pompe à essence en vue. Et en plus, pratiquement plus de voitures sur la route. Le soir tombe, le soir finit de tomber, c'est la nuit. Hein, elle met ses phares, hein, elle conduit. Et très inquiète pour la jauge, parce que vraiment, vraiment, il n'y a pratiquement plus d'essence. À un moment donné, en pleine nuit, eh ben, il n'y a plus d'essence du tout. Elle est obligée de s'arrêter. Comme ça, sur la route, en plein milieu, elle n'a pas pu se ranger, c'est vraiment en plein milieu de la route. Elle est toute seule, hein. Il n'y a plus personne qui passe, il n'y a pas non plus de pompe à essence. Toute seule, il n'y a plus qu'à attendre le matin, hein. C'est foutu, quoi. Et puis elle est dans sa voiture, voilà, on va passer la nuit là-dedans, quoi. Hein. Et je suppose qu'elle n'avait pas de téléphone portable, ou ça n'avait pas de réseau. Enfin. À un moment donné, quelqu'un arrive de l'extérieur. Waouh, quelqu'un arrive de l'extérieur. Une drôle d'allure. Drôle de gars, un peu claudiquant, là, comme ça. Et une ombre noire, quoi. Hein. Et puis, il se penche vers la voiture, il voudrait lui parler. Elle est pétrifiée de peur. Elle bloque toutes les serrures. Surtout pas parler. Trop dangereux. Pas ouvrir, pas avoir de contact avec cette personne. Hein. Donc, elle se calfeutre dans sa voiture. Elle vérifie que tout est fermé. Et puis, elle regarde bien le gars. Est-ce qu'il va s'éloigner, quand même? Est-ce qu'il va la laisser tranquille? Alors, le gars, il insiste. Trop peur. Et le gars s'éloigne. Bon, elle reprend un peu ses esprits. Hein, tu te rappelles, Fabrice? Non. Et tout à coup, il revient avec une énorme pierre. Il prend la pierre. Elle est terrorisée, absolument terrorisée. Et puis, bam! Il balance la pierre à travers la glace. La glace brisée, bien sûr. Et il se précipite, bien sûr, dans la voiture. Elle est affolée. Il se précipite dans la voiture, il la tire de la voie. Avec force, il la tire. Elle ne veut pas rester dans sa petite voiture. Elle se débat, il la tire quand même. Il la tire, il la traîne jusqu'au bas-côté. Et à ce moment-là, un train à grande vitesse arrive et défonce la voiture. Elle s'était arrêtée pile sur la voie de chemin de fer qui traversait la route. Et voilà. Elle a évité le pire. Et la parole de Dieu, parfois elle fait ça. Hein. C'est-à-dire que le Seigneur nous avertit, et puis nous, on, pour toutes sortes de raisons, là c'était la crainte, hein, mais ça peut être d'autres raisons, toutes sortes de raisons, on n'écoute pas, on se calfeutre dans son petit environnement douillet connu, hein, ma petite voiture, on ferme les écoutilles, on ne veut pas entendre, on se ferme. Et parfois le Seigneur est obligé de prendre des grands moyens pour nous sauver, des grands moyens. Mais ce n'était pas sa volonté première. Hein. Volonté première, c'est la parole qui nous avertit, la parole qui nous enseigne. Donc, cette parole, elle est instruite, elle corrige, elle éduque, elle est fondamentale. Et alors, une dernière chose, on va prendre Apocalypse 19, 11, 16. Jésus se révèle là, on est en plein Apocalypse, donc très actuel, c'est le livre de l'actualité. « Je vis le ciel ouvert, voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable. » Il juge et combat avec justice ou en justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il est revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom, Parole de Dieu. Et il se révèle comme Parole de Dieu. Et on peut continuer parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a du monde derrière. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtu d'un fin lin blanc pur. Ça parle de la justice, hein. On est juste en Jésus. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il est Petra, il apparaît donc comme le berger des nations. Il est Petra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous sentez cette radicalité? Parole de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, berger des nations. Mais il y a des armées derrière. Et nous, c'est clair qu'on est appelé à faire partie de ces armées. Et pour faire partie de cette armée, ça veut dire qu'on est comme Jésus. C'est-à-dire qu'on est aligné, absolument aligné avec cette parole. Il y a un radicalisme. Les prophètes nous ont dit, en France, ils vont se lever des réformateurs radicaux qui sont embrasés par la parole, qui sont alignés avec la parole, qui suivent Jésus où il va, qui font ce qu'il fait, qui sont absolument alignés. Et je crois que c'est le temps de Dieu, quoi. Quelque chose de radical. Alors l'épée, bien sûr, elle doit passer par nous, en nous, faire son travail en nous, de circoncision, de purification, de sanctification. Et après, on sera prêt à aller de l'avant et à prendre toutes les forteresses ennemies et à dire les jugements de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il se révèle là comme le fidèle et le véritable. Il y a une église, dans les sept églises, auquel justement Jésus se révèle comme le fidèle et le véritable. Laquelle ? Est-ce que vous savez ? Dans les sept églises, vous savez, à chaque fois, il se révèle comme quelqu'un de différent, sous une autre facette. Hein. Il y a une église, c'est le fidèle et le véritable. Non, justement, ce n'est pas fidèle et fidèle. Alors, fidèle et fidèle, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a aussi une grande emphase mise sur la parole. Parce que vous avez gardé ma parole, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, je vous garderai de l'heure de l'épreuve. C'est une église qui garde la parole, Philadelphie, tout à fait. Et quand on garde la parole, il y a des très précieuses promesses. Hein. Je ferai de vous un pilier, il ne sortira plus du temple de Dieu. C'est très très fort, Philadelphie. Et la dernière église, c'est la Odyssée, en fait. Il se révèle comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, tu peux dire Apocalypse, voilà. Ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, vous retrouvez la même appellation, fidèle et véritable, et en plus, le commencement, le prince de la création de Dieu, le créateur. Il se révèle comme l'auteur de la création. Et ça, c'est aussi quelque chose de très fort qu'on travaille en ce moment. Dieu réclame son droit d'auteur sur la création. C'est aussi quelque chose dans lequel il se révèle. Hein. Ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Et fidèle, ça veut dire aussi qui est fiable, loyal, sûr, en qui on peut se confier. Et l'Amen, alors c'est un petit mot, voilà, Amen, c'est énorme ce mot. Moi, je ne savais pas que c'était aussi énorme, c'est en travaillant ça que j'ai mis, waouh, Amen, c'est un mot énorme. On peut parfois un peu galvaudé, alors on nous explique. Amen est un mot absolument remarquable, il n'a pas été traduit en grec, il est passé tel quel du hébreu au grec, au Nouveau Testament, hein. Tel quel en latin, en anglais, en français, enfin pratiquement toutes les langues, c'est le mot universel avec Alléluia, je crois. Les deux mots hébreux universels. Hein. C'est le plus connu des mots humains. Le mot est directement relié, parce que presque identique, au mot « aman » qui veut dire « fidèle ». C'est une expression de confiance absolue. Et alors, ce qui est très très fort, c'est que dans le Nouveau Testament, donc il n'y a pas de grec, hein, c'est « amen ». Vous prenez, parfois, enfin, c'est dommage que ce soit traduit par autre chose en français. En français, on l'a dit « en vérité, vraiment », etc. On aurait dû garder le « amen », je pense. Il y a certaines versions qui gardent le « amen ». Mais ce qui est étonnant, c'est que dans Jean, il est toujours doublé. J'ai vérifié, vous pouvez prendre les Strongs, c'est toujours doublé. Il apparaît 25 fois, en vérité, amen, amen. 25 fois, donc en tout, ça fait 50 fois dans l'évangile de Jean. Pourquoi que Jean ? Parce que Matthieu, c'est une fois, vous voyez ? C'est toujours doublé en amen. Je crois qu'il y a une révélation, Jean avait certainement une révélation très particulière du Dieu qui est absolument fiable, qui est véritable. C'est la certitude, c'est la solidité de la parole de Jésus. Et le aman, l'autre mot, qui veut dire fidèle, en fait, il apparaît pour la première fois dans Genèse 15. Abraham crut aman à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et à la fidélité de Dieu, à la fiabilité de Jésus, on répond par la foi. Et Abraham, c'est le père de la foi. C'est la, et il y a quelque chose, je pense que ça va grandir en nous, ça fait partie du piquet aussi, c'est-à-dire qu'on va regarder aux réalités éternelles. On va regarder à la vérité de la parole beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'aux réalités visibles. À ce que disait Pierre-Alain Martin, l'immédiateté, les choses visibles, éphémères, ça va perdre de sa consistance. Je crois que ça commence déjà. Ça perd de sa consistance. La parole devient l'ultime, la vérité la plus réelle. Parce que tout ce qui est là, ça va partir. La vérité éternelle, réelle. Mais ça va emplir notre être intérieur, vous voyez ce que je veux dire ? Ça va nous remplir, ça va déborder, on va être des porteurs de parole, des porteurs de vie, des porteurs d'espérance, parce que la parole, c'est aussi bourré de vie. Ce n'est pas une parole loi au sens romain du terme, c'est une parole grenade, bourrée de semences de vie partout, partout, grenade. Voilà. Donc, il y a cette... Vraiment que Jésus se révèle pour nous comme le témoin fidèle et véritable. Amen. Il est oui et amen. Toutes ses promesses sont oui et amen. Ça nous donne, et plus on adore ce fidèle et véritable, la parole de Dieu, plus on devient nous-mêmes fiables, fidèles, véritables, fermes, inébranlables. C'est-à-dire nous transforme. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est ni par puissance ni par force, c'est lui qui le fait par son esprit, nous rendre fiables, un peuple absolument affermi. Et à ce peuple affermi qui est solidement affermi sur les piquets, les pieux, eh bien, le Seigneur peut confier beaucoup. Et je crois qu'il veut nous confier énormément, infiniment au-delà, mais il veut qu'on soit complètement affermi. Et donc, c'est à chacun de nous, et aussi collectivement, à travailler nos piquets, à nous laisser sonder, à laisser passer ce scanner de la parole. Et c'est un temps sérieux, hein, en préparant vraiment, c'est vraiment un temps sérieux. On est dans les derniers jours de l'année 5777. Hein. Fin septembre, c'est Rosh Hashanah. On attaque une autre saison. Les prophètes nous ont dit autre saison, autre dimension. Donc, on est dans ces temps, de derniers temps, là, Seigneur, sonde-nous, mets en ordre ce qui ne va pas, qu'on s'examine et puis qu'on s'encourage mutuellement parce qu'on a absolument besoin les uns des autres. Cette semaine, je suis passée au scanner, j'ai vraiment eu besoin des frères et des sœurs ça aide beaucoup d'être à deux, trois pour régler certaines choses. Hein. Franchement, quand le Seigneur met en lumière, on peut difficilement rester seul. Ça dépend des choses, mais vraiment, la communion fraternelle, beaucoup plus transparente, profonde, vraie. On est vraiment appelé à ça. Et voilà, je termine. Il y avait quelque chose, une catégorie, comme je vous disais. Je crois que voilà, c'est le Seigneur, il attirait ma attention sur des personnes au milieu de nous. Et je crois qu'il a un cœur tout spécial. Il y a ceux qui sont déjà bien, voilà, tout va bien, ils savent ce que c'est, ils se laissent faire. Enfin, et puis il y a ceux qui pensaient vraiment aux gens d'Emmaüs, disciples d'Emmaüs, ils comprennent pas. Il y a des incompréhensions, il y a des questionnements, ils sont un peu perdus, ils ne voient pas Jésus vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ils s'éloignent de Jérusalem, ils disent, voilà, la déception, le questionnement, plein de choses. Et vraiment, je voyais que Jésus a un cœur spécial pour ses frères, ses sœurs au milieu de nous qui ont des tas de questions. Et il n'y a plus le feu qui brûle parce que voilà, il y a eu trop de déceptions, trop de découragement, trop d'incompréhension, ils ne comprennent plus rien. Et il y a vraiment vous savez, ce Jésus berger, il dit, mais je sais où tu en es dans ces questionnements, dans cette incompréhension, je sais où tu en es. Et simplement, je veux être avec toi. Et vous savez comme il fait le berger, le Jésus, là, il va vers eux, les disciples d'Emmaüs, et je crois qu'il vient vers ceux qui sont concernés ce matin, il vient vers eux et dit, voilà, on va faire route et tu vas m'expliquer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est sur ton cœur, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Et vous savez, ils ont partagé, les disciples d'Emmaüs, ils ont partagé, ils ont répandu leur cœur en long, en large, ils ont raconté toutes leurs déceptions, ils ne comprenaient rien. Et puis, simplement, Jésus a écouté, et après, il a expliqué la parole, et il s'est révélé à travers la parole. Et ça a fait brûler de nouveau les cœurs des disciples. Et après, il y a eu une autre étape d'intimité. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont dit, non, Jésus, reste avec nous, le soir vient, reste avec nous. Et puis, il y a eu ce temps d'intimité, de communion. Et c'est un peu Jésus, je frappe à la porte du cœur. Allez, viens, ouvre-moi la porte, on va avoir un temps de communion ensemble. Et il y a vraiment un profond désir de Jésus. Parce que je crois qu'il y a vraiment des personnes au milieu de nous qui sont dans cette situation, qui sont comme un petit peu éloignées de Jérusalem, de Sion, de la présence de Dieu. Et puis, mais vous pouvez pas savoir le cœur de Jésus pour ces personnes. Il y a un amour de Dieu fabuleux pour ces personnes. Et vraiment, vous le dire de la part de Dieu, Jésus, il a... Il ne vous oublie pas, même si vous n'êtes pas dans les brebis qui ont l'air le plus en bonne forme, voilà. Vous n'êtes pas devant, tout ça, mais il y a un cœur de Dieu. Allez, faisons route ensemble, dis-moi juste ce qui ne va pas. Un partage, un cœur à cœur. Simplement, ce qui t'attend, c'est un cœur à cœur, un partage. Dis-moi tout ce qui ne va pas. Répands ton cœur, vas-y, répands ton cœur. Tu as le droit de dire tout. Tu as le droit de tout dire. Et garde la relation. Alors Seigneur, je voudrais juste... Peut-être il y a aussi ceux qui veulent juste, ont soif de plus connaître. Il y a peut-être ces deux catégories. On va peut-être, je sais pas, pour Isabelle prier ou appeler ou je sais pas. À toi de voir. Mais je sentais cette forte interpellation à la fois pour ceux qui veulent être vivifiés dans cette démarche dynamique de connaissance de Dieu et ceux qui sont comme Emmaüs, qui sont éloignés, qui ont vraiment besoin de cet attouchement de Jésus, renouer cette relation personnelle vivante avec Jésus.
Je pense qu'on reste simplement devant le Seigneur et chacun devant lui. C'est chacun de nous qui savons où nous en sommes et c'est nous qui pouvons dire si vraiment nous sommes sur le côté comme ça, dans la déception, ou si nous sommes dans ce courant de son amour. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. On va prendre ce temps et ensuite, dans 2-3 minutes, Je vous inviterai simplement à ce qu'on mette par petits groupes, 4-5, et simplement nous bénir les uns les autres. Mais on veut commencer par ce temps tout seul. Merci Seigneur. Seigneur, nous laissons interpeller par ta parole, par ton désir d'affermissement de nos vies et de cordages qui s'étendent. Seigneur, merci pour cette belle tente nouvelle cette année. Une grande tente, une tente collective, une tente solide pour accueillir les bonnes choses de cette nouvelle année et affronter les défis et les tempêtes. Merci pour le cœur que tu élargis. Merci pour l'espérance que tu fais souffler à nouveau sur ceux qui en ont tellement besoin. Seigneur, nous sommes là devant toi, nous ouvrons nos cœurs et nous recevons, Seigneur, cette parole, cet attouchement de ton esprit. Merci, Seigneur. Allez, il n'y a aucune condamnation ce matin. Il y a simplement le cœur du Père qui veut remplir nos cœurs. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Je vous propose maintenant qu'on se mette par 4-5, qu'on se retourne, qu'on ait simplement ce temps de bénédiction les uns les autres. On a dit l'affermissement dans la communion. Et nous voulons simplement pouvoir parler.
Je ne voyais pas seulement le fait de se bénir les uns les autres, mais de confesser ensemble les uns les autres, de recevoir verbalement, de pouvoir verbaliser ensemble et de répondre aussi ensemble au Seigneur.
Voilà, et on terminera ce culte comme ça. Donc je vous invite vraiment à vous mettre par ces petits groupes et...